Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous, il est 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Mali, le camp présidentiel soutient Kibeka serait largement réélu après le rejet à l'avance par l'opposition des résultats. L'ONU appelle toutes les parties au calme.
En évitant d'annoncer leur propre estimation avant publication des résultats provisoires par l'administration électorale et à régler les contestations éventuelles par la seule voie des recours juridictionnels.
En Mauritanie, l'opposant Birada Oulda Bey écroué sur plainte d'un journaliste à quelques jours du début de la campagne pour les législatives. En République démocratique du Congo, les leaders de l'opposition tentent de trouver un candidat commun pour la présidentielle du 23 décembre.
La tâche ne va pas être facile pour ces leaders d'opposition de pouvoir concéder et soutenir une candidature commune.
En Grande-Bretagne, un attentat à la voiture Bélier fait plusieurs blessés devant le Parlement à Londres. Dans la minute éco, Air Algérie va désormais desservir l'Afrique centrale et la FIFA a menacé de suspendre deux fédérations africaines dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Mali, la direction du camp présidentiel soutient que son candidat sera réélu. L'opposant Soumaïla Cissé rejette les résultats du second tour avant leur proclamation. La mission d'observation de l'Union européenne préconise la voie judiciaire pour contester les résultats et l'ONU appelle au calme. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
En attendant les résultats provisoires officiels, il y a une vive tension entre les deux candidats. Soumaïla Cissé, candidat de l'UR.
Nous avons un logiciel de compilation qui nous donnait les résultats au fur et à mesure, bureau de vote par bureau de vote. Il a été attaqué et devenu inopérationnel. Nous avons aussi des résultats fantaisistes dans le nord du pays. Les bulletins de vote circulent à l'avance, certains déjà remplis et signés. La fraude, elle est avérée. C'est pour ça qu'il y a des résultats que nous n'accepterons pas.
Bokary Traoré, directeur de campagne du candidat Ibeka.
Le gouvernement du Mali a porté plainte contre X pour soustraction et utilisation frauduleuse du bulletin de vote qui avait été exhibé par le directeur de campagne du candidat de l'URD. Les résultats issus du système de centralisation de notre QG de campagne indiquent que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable.
La mission d'observation de l'Union européenne appelle au calme. Cécile Kendié, chef de la mission.
Appelle les candidats à faire preuve de mesure en évitant d'annoncer leur propre estimation avant publication des résultats provisoires par l'administration électorale et à régler les contestations éventuelles par la seule voie des recours juridictionnels.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Mauritanie, l'opposant Birada Oulda Bey, président d'une ONG anti-esclavagiste et candidat aux législatives du 1er septembre, a été inculpé et emprisonné alors que la campagne pour les législatives démarre dans 72 heures. Des détails avec Yacouba Ouedraogo.
Déféré hier devant le procureur, Birada Oulda Bey a été inculpé pour atteinte à l'intégrité d'autrui et menace d'usage de la violence. Un militant de son ONG, Abdallahi Oulda Hussein, a lui aussi été écroué pour complicité dans le même dossier. Président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, M. Oulda Bey a été placé en garde à vue dans un commissariat de Nouakchott depuis le 7 août. Il a été interpellé suite à la plainte de Deda Abdallah, un journaliste l'accusant de calomnie, d'injure et d'incitation à la haine. Maître Cheikh Ould Indi, avocat de l'accusé, a déclaré que son client a cherché et obtenu un accord de principe avec le journaliste pour clore l'instruction, mais le juge en charge du dossier a passé outre et renvoyé son client en prison. Birada Oulda Bey est candidat aux législatives sous les couleurs du parti Assawab, qui a fait alliance avec l'aile politique de l'IRA. Le journaliste Abdallah a réalisé un documentaire sur cette alliance, qualifié de contre-nature. Il a alors interrogé des alliés et des adversaires du candidat sur son parcours politique et humanitaire.
Et toujours en Mauritanie, l'opposant Mohamed Ould Ghed, ex-sénateur, et le soldat Mohamed Ould Mbarek ont été condamnés à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis, pour dénonciation calomnieuse. Ils avaient contredit la version officielle sur une blessure par balle du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz en 2012. Au Sénégal, le militant écologiste et ancien ministre de l'Environnement, Haïdar El Ali, a été condamné par un tribunal correctionnel de Dakar à 3 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un responsable des exploitants forestiers sénégalais. Il a indiqué qu'il allait faire appel de cette décision. Haïdar El Ali avait en janvier 2018 cité le président de l'UNEF parmi les trafiquants de bois au Sénégal, selon la presse locale. Depuis plusieurs années, il avertit du risque de disparition des forêts en Casamance à cause du trafic de bois. Au Burundi, un militant des droits de l'homme a été condamné hier à 5 ans de prison. Nestor Nibitanda est accusé de travailler pour le Conta Prodé, une association interdite par le pouvoir. Les précisions avec Irénée Amamongbo.
Nestor Nibitanga a été condamné par le tribunal de grande instance de Bujumbura à 5 ans de prison pour avoir continué à fournir des rapports sur les droits de l'homme à l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues à Prodé, fermée par le régime depuis 2015. Selon son avocat, maître Fabien Segatoa, M. Nibitanga collabore depuis 3 ans avec le réseau national des organisations des droits de l'homme, toujours autorisé et à ce titre n'aurait pas dû être condamné. Il avait été arrêté le 21 juin 2007 par le service national de renseignement à Gitega avant d'être acheminé à la prison de Rumonge. Au moins, il n'a pas été torturé ou tué comme d'autres activistes ou opposants arrêtés par le régime de Bujumbura, se félicite Claver Bonimpa, acteur en exil de la société civile burundaise.
Et par ailleurs, le président burundais Pierre Nkurunziza a décidé d'interdire les sacs plastiques dans un délai d'un an et demi, selon un décret présidentiel. Un délai de grâce de 18 mois est accordé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour écouler les stocks disponibles et les commandes déjà passées, précise le texte. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires congolaises ont déclaré que 41 décès liés à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés dans le nord-est du pays. Pour la première fois depuis l'annonce de l'épidémie le 1er août, un décès a été enregistré en dehors de la province du Nord-Kivu, dans la province voisine de l'Ituri. Aux Comores, les autorités ont annoncé l'arrestation de 10 personnes en lien avec une tentative de coup d'État. Le procureur de la République déclare que des soldats, un écrivain très connu et d'autres individus ont planifié une série d'assassinats pour prendre le pouvoir. Depuis un référendum controversé le mois dernier, la sécurité s'est détériorée aux Comores. En Éthiopie, un tribunal a ordonné la remise en liberté sous caution de 11 policiers accusés de négligence pour ne pas avoir empêché une attaque à la grenade lors d'un meeting du premier ministre réformateur Abiy Ahmed le 23 juin. En Afrique du Sud, Marc Mini, un ancien policier et auteur, a été trouvé mort avec une blessure par balle à la tête dans la province d'Eastern Cape, dans le sud-est du pays. Il est l'auteur d'un livre accusant de hauts dignitaires du régime de l'apartheid d'avoir organisé un cercle pédophile dans les années 1980. Il habitait en Chine où il enseignait et il était en Afrique du Sud pour le lancement du livre écrit avec le journaliste d'investigation Krinstein.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, en Angleterre, plusieurs blessés sont à compter après qu'une voiture a foncé sur des cyclistes et des piétons devant le Parlement à Londres. Une attaque traitée par la police comme un acte terroriste, Bagassi Koura.
Tôt ce matin, les images diffusées par les chaînes britanniques montrent le véhicule, une Ford Fiesta gris métallisé, en train de quitter sa trajectoire vers un passage piéton. Puis le véhicule fonce vers 2 policiers qui s'écartent in extremis avant qu'ils ne percutent une barrière de sécurité régulant l'accès au Parlement qui ne siège pas cette semaine. Le conducteur, seul occupant du véhicule, a été arrêté sur place. Aucune arme n'a été trouvée sur les lieux, a précisé Scotland Yard. Nous traitons cela comme un incident terroriste, a déclaré à la presse le chef de l'antiterrorisme Neil Bazou. Le conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, dont l'identité n'est pas révélée, est détenu pour un soupçon d'acte terroriste. Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d'attentats, dont 4 revendiqués par le groupe État islamique, qui ont fait au total 36 morts et 200 blessés.
En Italie, un segment du pont Morandi au-dessus de la ville du nord du pays s'est écroulé. Un bilan provisoire fait état d'au moins 22 morts, 8 blessés, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Les causes de cet effondrement étaient cet après-midi encore inconnues. L'agence de presse italienne ANSA souligne que l'effondrement aurait pu être causé par une défaillance structurelle de l'édifice. Et le Portugal et l'Espagne sont disponibles pour accueillir une partie des migrants stationnés sur le navire Aquarius. Le Portugal est disponible pour accueillir 30 des 244 migrants qui se trouvent à bord de l'Aquarius et des autres embarcations actuellement à Malte, a déclaré le gouvernement portugais dans un communiqué. L'Espagne a à son tour annoncé qu'elle allait accueillir 60 des 141 migrants actuellement à bord de l'Aquarius. L'Aquarius cherchait un port d'accueil jusqu'à ce mardi avant que Malte, d'abord réticent, ne décide de finalement les laisser accoster. Les États-Unis expriment leur ferme opposition au traité proposé par la Russie à la Chine pour empêcher une course à l'armement dans l'espace en le qualifiant de creux et hypocrite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, qu'on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Air Algérie va désormais desservir l'Afrique centrale. Selon le site d'information aéronautique News Aero, deux nouvelles lignes vers Douala et Libreville vont être ouvertes avant la fin de l'année, à raison de 3 vols par semaine chacune. La compagnie nationale algérienne sera sans concurrence sur ces trajets. Air Algérie dessert notamment Abidjan, Bamako, Dakar, Niamey et Ouagadougou. Le tourisme tunisien est en forte progression. Les recettes sont en hausse de 42% pour les 7 premiers mois de 2018, soit 554 millions de dollars, selon le bilan du ministère du Tourisme. Ces chiffres marquent une nette reprise de l'industrie touristique tunisienne après plusieurs années de vaches maigres consécutives aux troubles politiques ayant suivi la révolution de janvier 2011 et aux attentats de 2015. Le Nigeria est en négociation avec le Brésil pour l'implémentation d'un programme agricole de 1,1 milliard de dollars pour l'achat de matériel, de machines et d'équipements agricoles. Un financement en 3 tranches sera assuré par la banque brésilienne Exim Bank. La banque centrale du Nigeria va, elle, couvrir le fonds de roulement des intrants, notamment les engrais, les semences et les pesticides.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pineau.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord, la FIFA menace 2 fédérations africaines.
Oui, la FIFA a menacé de suspendre les fédérations de football du Nigeria et du Ghana. Concernant le Nigeria, la FIFA demande que le président de la fédération, Amadou Melvin Pinnick, dûment élu le 30 septembre 2014, retrouve ses pouvoirs, tout comme le comité exécutif. Si ce n'est pas le cas, la fédération nigériane sera suspendue avec effet immédiat. Et cette sanction aurait un impact, puisqu'actuellement, la sélection du Nigeria est engagée dans la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. La FIFA menace également de suspendre la fédération du Ghana, dont le président Kwesi Nyantakyi a démissionné début juin en raison de soupçons de délits de corruption après des révélations explosives d'une enquête journalistique. La FIFA précise que sa commission d'éthique a ouvert une enquête à l'encontre de M. Nyantakyi et qui a été provisoirement suspendue par cette même commission. La FIFA considère que les mesures prises par la justice ghanéenne visant à la dissolution de la fédération constituent une ingérence.
Et Ronaldo, va mieux Nicolas ?
Oui, l'ancien international brésilien âgé de 41 ans a annoncé sur Twitter être sorti de la clinique où il était soigné depuis la fin de la semaine dernière sur l'île d'Ibiza. Ronaldo, double ballon d'or, a été désigné joueur FIFA de l'année à 3 reprises avant de se retirer des terrains. C'était en 2011.
Football, c'est la saison des transferts.
Le milieu international français de Chelsea, Tiemoué Bakayoko, a été prêté avec option d'achat au Milan AC, annonce des deux clubs aujourd'hui. Le joueur de 23 ans avait seulement rejoint les Blues l'année dernière en provenance de Monaco pour 45 millions d'euros. Selon la presse italienne, Bakayoko s'est engagé avec le Milan AC pour 5 millions d'euros avec une option d'achat de 35 millions d'euros l'été prochain. Et puis le comeback inattendu du défenseur Stéphane Mbia qui doit s'engager avec Toulouse. Le Camerounais est arrivé cette semaine dans l'Hexagone pour finaliser un contrat d'un an avec le le club toulousain.
Et Bakambu est en forme en Chine.
13 buts en 13 matchs, Cédric Bakambu s'éclate en Chine. Ce mardi, l'ancien attaquant de Villarreal a inscrit un doublé lors du succès des Beijing Guoan contre le Dalian Yefang. 5 buts à 2, ça va donc plutôt fort pour le joueur congolais.
Et enfin, l'Éthiopie fait les yeux doux à son champion Lilesa.
Ah oui, l'Éthiopie a demandé au marathonien Feyisa Lilesa, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, de rentrer dans son pays en lui promettant même d'être accueilli en héros. Lilesa, 28 ans, vit en exil aux États-Unis. Depuis 2016, à Rio, il avait symboliquement croisé les poignets en passant la ligne d'arrivée du marathon olympique pour protester contre la répression brutale de son ethnie, les Oromo, majoritaires dans le sud de l'Éthiopie. Le comité olympique et la fédération d'athlétisme ont co-signé cette lettre ouverte où ils demandent que Lilesa reprenne sa carrière dans et pour son pays.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Raissa Girondin avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'opposition tente de trouver un candidat commun pour la présidentielle du 23 décembre. 6 leaders et candidats présidentiels ont signé lundi, dans la soirée, une déclaration dans ce sens. Pour une analyse, Eddie Sango a joint à Kinshasa la coordinatrice d'Actu 30 Magazine, Rachel Kiti-Tadongo.
Ils sont toujours dans l'étape des négociations, les débuts des discussions. D'abord pour dégager un principe autour de la désignation, donc qui va faire en sorte que le processus s'accélère. Dégager un principe, certainement un profil du futur candidat commun de l'opposition. Il y a à ce jour 25 candidatures par la CENI, mais c'était 6 leaders exactement qui ont apposé leur signature sur le document ou du moins par leur délégué. Donc il s'agit de Jean-Pierre Bemba, de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Kanere, Martin Fayulu et Freddy Matungulu.
Ils ont tous, chacun à son tour, fait une démonstration de force de leur popularité. Comment pensez-vous qu'ils puissent accepter de laisser de côté leurs égaux?
La tâche ne va pas être facile pour ces leaders d'opposition de pouvoir concéder et soutenir une candidature commune. Que l'élection se déroule à un tour, c'est ça finalement le grand danger. C'est-à-dire le premier à avoir le plus grand, en fait, le plus de pourcentage que les autres l'emportent, devient président de la République. Et donc aller en ordre dispersé, c'est émietter les voix et ce n'est pas avoir la chance de gagner l'élection. Bien, maintenant la question c'est comment vont-ils faire par exemple? Vous prenez un parti comme l'UDPS, Félix Tshisekedi et son staff ou le bureau politique du parti peuvent décider, je prends un exemple, de soutenir X candidat. Est-ce que la base, c'est la question que moi je me pose, est-ce que la base sera d'accord avec le choix du président Félix Tshisekedi? Ce qui veut dire qu'il faudrait, selon moi, essayer de négocier avec la base, appeler à la retenue, des calmes, à la compréhension de la base pour que la base puisse décider et s'aligner du côté de la décision du président qui va finalement accepter cette concession.
Quel signe donne-t-il de vouloir concrétiser cette volonté d'une candidature unique?
Déjà le fait que Jean-Pierre Bemba est arrivé, il a discuté avec Félix Tshisekedi, avec Vital Kamerhe, ensuite Kamerhe, Herba Zaïba, Félix Tshisekedi ensemble, et puis cette déclaration commune qui a été lue le lundi.
Il y a la question restante qui se pose.
Ça peut se négocier même jusqu'à la veille des élections, j'ai l'impression.
Soutenir un candidat unique, c'est une question, et arriver à un programme commun, c'en est un autre.
Quand le FCC le fait, l'opposition peut le faire aussi.
C'était Rachel Kiti-Tadongo, coordinatrice d'Actu 30 Magazine.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la renonciation du président congolais Joseph Kabila à un troisième mandat et ce après un long suspense. Il aurait dû quitter le pouvoir il y a 2 ans, soit à la fin de son second et dernier mandat tel qu'exigé par la Constitution. Que signifie cette décision pour la RDC et le reste du continent? Dans quelles conditions se déroulera l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain après maint report? C'est une édition que nous allons vous proposer en collaboration avec notre chaîne partenaire WAF TV à Dakar. Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Boko Haram affaiblit au Cameroun, le nombre de victimes a baissé, le nombre d'attaques a fortement diminué et d'après International Crisis Group, il y a beaucoup moins de combattants djihadistes dans l'extrême nord du pays. Sur les défis qui se posent maintenant au gouvernement camerounais, Morgan Gryek a joint Hans de Marie Ngoup, analyste à l'International Crisis Group.
Nous n'avons pas de chiffres à la virgule près, mais nous savons que plus d'un millier de membres de Boko Haram ont perdu la vie dans les combats contre les forces de sécurité camerounaises. Nous ne faisons pas mention ici d'exécutions extrajudiciaires, nous parlons de personnes tuées en situation de combat. D'autres ont été faits prisonniers. Présentement, on a encore autour de 500 à 600 présumés membres de Boko Haram qui sont à la prison de Maroua, dont plus de 200 ont déjà été condamnés. D'autres désistent le mouvement, soit en se rendant officiellement, comme c'est le cas d'environ 200 membres. D'autres encore trouvent des moyens de se réinsérer au sein de la société sans que l'on ne sache pas quel procédé. Cela donne pour nous un indicateur pertinent de l'affaiblissement de Boko Haram dans cette région camerounaise. Affaiblissement qui ne signifie pas pour autant défaite de Boko Haram. Notre rapport insiste sur comment on envisage la phase de stabilisation du post-conflit.
Aujourd'hui, ce qui vous préoccupe le plus, c'est la gestion des anciens combattants, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Et alors, vous recommandez quoi ?
Disons que le Cameroun s'est plutôt mis sur le tard à traiter de la question. Il n'a pas encore élaboré une politique concrète pour la réinsertion d'une partie de ceux qui se rendent. Et donc nous, ce que nous proposons au gouvernement, c'est de distinguer premièrement entre les membres que l'on pourrait qualifier de radicalisés, de ceux qui ont rejoint Boko Haram par opportunité d'affaires ou opportunité économique. Distinguer ensuite entre ceux qui ont commis des crimes graves comme des tueries et ceux qui ont peut-être commis des crimes moins graves comme par exemple juste livrer des informations à Boko Haram ou alors servir de logisticien, de ravitailleurs de factions combattantes. Le Cameroun pourrait envisager une forme de justice particulière pour chacune des catégories. Certaines vont nécessairement passer par la case de prison et subir un processus que l'on pourrait qualifier de déradicalisation, tandis que d'autres pourraient passer par des formes de justice communautaire et par la suite être réinsérées. Si un message fort n'est pas envoyé aux centaines de Camerounais ou aux presque milliers de Camerounais qui demeurent dans Boko Haram, il sera véritablement difficile d'en venir au bout du conflit. Pendant des années, ils vont continuer à essaimer le long de la frontière et continuer à menacer les vies des populations locales.
Donc ce que vous voulez, c'est les inciter à se rendre.
Il faut trouver le juste milieu entre une politique suffisamment incitative pour que les membres de Boko Haram veuillent se rendre et la nécessité de la justice afin qu'une telle politique ne soit pas simplement perçue comme une prime à la violence ou au terrorisme par les populations locales.
Hans-Marie Ngoup, analyste à l'International Crisis Group.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Et au Burkina Faso, l'heure est au retrait des enfants de la rue. L'opération a débuté le week-end dernier et va se poursuivre pendant plusieurs semaines. Le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré, nous en dit plus.
Dans les rues de la capitale burkinabé et dans toutes les grandes villes du pays, il n'est pas rare de voir des enfants traîner dans les rues. Ils quémanent, mangent et dorment dehors. Plusieurs catégories d'enfants sont concernées. Solange Sommet est la directrice provinciale de la FAM de la Solidarité Nationale dans le Houé, Bobo Dioulasso, deuxième grande ville du pays.
De façon générale, il y a dans ce groupe de maintien-là, et les enfants talibés, il y a même les enfants en situation de rue qui m'ont dit, et il y a les enfants, les jumeaux, voilà, que les parents, les mamans trimballent en ville.
La plupart des enfants sont confiés à des maîtres pour leur apprentissage du Coran. Le petit Amidou, à peine 10 ans, est mendiant.
C'est mon papa qui m'a confié à un maître coranique. Et il nous dit de sortir.
L'islam condamne d'ailleurs ces phénomènes. Oumar Oumone est imam au Serfi, cercle d'études, de recherche et de formation islamique.
De plus en plus, le phénomène s'est aggravé où certains maîtres coraniques en font maintenant un gagne-pain. Et certains même vont à imposer un certain nombre de montants que les enfants doivent envoyer chaque soir. Dans aucun texte de l'islam, vous ne verrez nulle part où on encourage effectivement les uns et les autres à la mendicité. Surtout la mendicité professionnelle. en faire une profession, l'islam rejette ça.
Et au ministère de la Solidarité Nationale, on ne veut plus voir d'enfants dans les rues. Au moins 10 équipes sont engagées pour l'opération, pour retirer les enfants des rues. La ministre assure que le gouvernement va se battre pour les mettre à l'abri et permettre leur réinsertion sociale et professionnelle. Marie-Laurence Marchal-Ilboudo.
Nous allons les accompagner, en tout cas, pour qu'ils prennent leur destin en main. C'est un travail de patience, vous avez suivi un peu, et puis de persévérance. Je pense que nos équipes sont déjà aguerries pour cette tâche, et surtout qu'il y a la volonté. C'est pour ça que nous avons basé notre stratégie sur le volontariat. Donc, il faut être volontaire pour faire ce travail. Vous voyez, il pleut, on est sous la pluie, et il faut prendre ses enfants en douceur. Donc, je suis confiante du résultat.
Les enfants ont 6 mois à faire dans les centres d'accueil, le temps de chercher les parents. Et dans le cas échéant, à défaut de retrouver les parents, certains enfants seront placés dans les centres aménagés pour les accueillir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités ou des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Et voilà, on se quitte en musique avec Ginger Me de Pelansuru. Merci de nous avoir suivis à la technique Michel Joseph, à la mise en onde, Michael Lubisky à la console, Raïta Gironda à la présentation. On reste connecté sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, à Rakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquête et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.